Radio de la Paix, il est 12h. Le journal du midi, Marthe Cacou.
Nous sommes le mardi 28 mars 2023. Tout de suite, les titres à la une de cette édition. À quoi servent les députés ivoiriens? Combien sont-ils à l'Assemblée nationale? Comment fonctionne l'institution qui abrite leurs services? Quelle est la différence entre les députés et les sénateurs? Autant de préoccupations qui étaient au centre d'une conférence publique à l'initiative du député de Mans Commune 2. Dans quelques minutes, le reportage de Stéphane Adams. Le 15 novembre prochain, la ville de Boaké sera l'hôte de la journée nationale de la paix du souvenir et du pardon, l'occasion de réaffirmer le vivre ensemble, a indiqué le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Bertin Konan-Kwadio, est allé donner l'information aux populations de Boaké, les échos de cette visite dans ce journal. D'une visite à une autre, une visite chargée d'enjeux, selon un professeur titulaire en histoire des relations internationales à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Kwadio Guessin apportera des éclairages sur le séjour de la vice-présidente américaine au Ghana, Kamala Harris, qui annonce une aide bilatérale d'environ 50 milliards de francs CFA pour renforcer la sécurité des Côtes d'Afrique de l'Ouest. L'invité de la rédaction, pour finir, est le directeur général de la diaspora, Dr Gaoussou Karamoko, va évoquer la situation d'un peu plus d'une centaine d'Ivoiriens actuellement bloqués au Niger et qui attendent d'être rapatriés dans leur pays. Voilà pour l'ossature de cette session d'information. Bonjour à tous. Au rôle du député au sein de l'Assemblée nationale et dans sa circonscription électorale, ce thème était au cœur d'une conférence publique à l'intention des populations de Mans. La conférence animée par Kia Diomandé-Roger à son initiative en sa qualité de député de Mans Commune 2 aura permis de définir et clarifier le rôle du législateur. Plus de détails dans cette correspondance de Stéphane Adams.
Avant tout propos, le conférencier Kia Diomandé-Roger a d'abord clarifié le rôle des députés, l'institution qui abrite leurs services, combien de députés compte cette institution et quels rapports les députés ont-ils avec les sénateurs.
Le député, son rôle principal, c'est de faire les lois. Et ces lois-là, c'est ce qui permet de réguler la société. Mais au terme de l'article 85 de la Constitution du 8 novembre 2016, on a décidé qu'il y ait deux chambres. L'Assemblée nationale est composée de 255 députés, qui est la chambre basse quand on doit voter les lois. Là, c'est par là que ça commence. Ensuite, il y a le Sénat à un effectif de 99 sénateurs, dont 66 sont élus au suffrage universel indirect, 33 nommés par le président de la République.
Poursuivant, il précise.
Le député, c'est l'ensemble des populations qui sont en âge de voter, qui se sont fait enrôler, qui sont inscrits sur la liste électorale. C'est ceux-là qui vont voter le député. Mais les sénateurs, il y a les conseillers municipaux, les conseillers régionaux qui élisent les sénateurs. Pour atteindre les buts constitutionnels à lui assigner, le Parlement, à travers chaque chambre, examine les projets et propositions de loi.
L'avis de quelques participants au terme de la rencontre.
Je connais Yacouba, je suis très content de tout ce qu'il a dit, mais ils n'ont jamais tenu compte de l'avis de la population et expliqué souvent ce qui se passe à l'Assemblée. Ça doit changer.
C'est dans ce genre de rencontre-là qu'on a des informations dont on ne sait pas. De notre côté, on va partager l'information autour de nous.
Il faut retenir que le député n'a pas de siège dans sa circonscription où il a été élu, encore moins un budget. Stéphane Adams, Mans, Radio de la Paix.
On quitte Mans pour Divo où il est aussi question de restitution des activités parlementaires à la population. Le député de Divo Commune a révélé récemment au cours d'une rencontre avec toutes les couches sociales de la ville que la dot n'est plus interdite. Cependant, Dr Famoussa Koulibaly souligne qu'aucune loi ne légitime pour le moment la polygamie en Côte d'Ivoire, suivant les explications du député de Divo Commune, Dr Famoussa Koulibaly.
La polygamie, effectivement, il y a une proposition de loi d'un député qui a souhaité, compte tenu de notre culture, de nos aspirations, parce que lui, il estime que la polygamie, ce n'est pas une affaire de religion. Parce que quand on prend toutes les cultures en Côte d'Ivoire, surtout bon, quand on prend Divo, vous verrez que beaucoup chez nous ici sont polygames. Donc, comme le député a l'initiative de la loi, au même titre que le président de la République, sa loi sur son coup, pour le moment, ce n'est pas encore passé en commission pour que nous puissions examiner et passer en plénière pour que ce soit adopté ou rejeté. Donc pour le moment, notre loi ne reconnaît pas la polygamie. Par contre, il y a une tolérance. C'est comme la dot. Avant, il était écrit, avant cette loi que je viens de citer sur le mariage, la dot était interdite. La colonisation nous a imposé certaines lois. Et nous sommes en train de travailler avec la bonne compréhension du président de la République pour changer un certain nombre de choses. Donc désormais, aujourd'hui, quand tu fais la dot, il n'y a pas de problème.
Docteur Famissa Koulibaly, député de Divo Commune, il était au micro d'Abel César Cassin, notre correspondant régional. Et puis, selon la presse, le bureau de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire souhaiterait passer à 2 sessions ordinaires pour son temps de travail au lieu de la seule session instaurée par la nouvelle constitution de 2020, dont celle de 2023 s'ouvrira le lundi 3 avril prochain. Ce souhait légitime, estime Geoffroy Julien Kouaou, juriste et analyste politique.
Tout cela participe de l'amélioration de la qualité du temps de travail. Les constitutions de 1960 et de 2000 consacraient 2 sessions parlementaires. Et évidemment, entre ces 2 sessions, on avait les vacances parlementaires. Mais avec la nouvelle constitution, c'est une seule session qui commence en avril et prend fin en décembre. Évidemment, certainement que le bureau de l'Assemblée nationale a compris que le fait de faire une seule session ne leur permettait pas de travailler efficacement et surtout faisait coïncider les vacances parlementaires avec le début de l'année.
Quel découpage pour ce changement?
Si on prend par exemple l'hypothèse de l'ancienne constitution, la première session peut partir par exemple du mois de janvier voire février jusqu'au mois de juillet-août et puis un mois ou deux mois de vacances parlementaires et le dernier trimestre par exemple de l'année peut être consacré à la deuxième session pour l'adoption du budget. Je pense que la question budgétaire étant extrêmement importante, on peut valablement lui accorder une session. Et donc, le souhait émis par le bureau de l'Assemblée nationale me paraît pertinent.
Geoffroy Julien Kouaou, juriste et analyste politique, il a été joint par Francis Cassi. Réconciliation et cohésion nationale, Boaké va accueillir la prochaine journée nationale de la paix, du souvenir et du pardon. Le ministre de tutelle a séjourné récemment dans la ville. Bertin Konan-Kouadio est allé annoncer aux populations l'organisation de la 3e édition qui aura lieu le 15 novembre prochain. Il a saisi l'occasion pour exhorter les communautés à réapprendre à vivre ensemble après les crises successives que la Côte d'Ivoire a connues. En ligne de Boaké, Joseph Assalé, notre correspondant régional dans le Boaké.
Fief de la rébellion armée de 2002, Boaké a aujourd'hui fière allure avec la réalisation de nombreux équipements socio-économiques, commerciaux et culturels. C'est cette ville qui va accueillir le 15 novembre prochain la 3e édition de la célébration de la Journée nationale de la paix, du souvenir et du pardon. Bertin Kouadio Konan, ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale.
Ça doit être l'occasion de raffermir la cohésion sociale, raffermir nos liens et réaffirmer notre désir de vivre ensemble. Boaké a une histoire. Boaké, c'est Boaké. Il y avait même des chansons dédiées. Boaké et sa piscine, ses larges rues bien éclairées. Voilà Boaké. C'est ce Boaké-là qui doit non seulement renaître, il est sur la bonne voie que nous devons revivre.
Les habitants de Boaké disent adhérer à l'initiative du ministre Bertin Kouadio Konan.
Ida Tralou Gonésier, je pense que c'est une très belle initiative. Boaké est le symbole même de la paix en Côte d'Ivoire, puisque après la crise, c'est à Boaké qu'a été allumée la flamme de la paix.
Travailleur locaux, porte-parole des chefs de communauté résidents à Boaké.
La cohésion ne peut venir sans l'acceptation des différences.
Il est bon de noter que la Journée nationale de la paix, du souvenir et du pardon sera meublé par des consultations avec les différentes composantes de la société pour renforcer le vivre ensemble et la paix dans la région. Joseph Assalé, Boaké, Radio de la Paix.
Orientation scolaire et professionnelle, quelle contribution dans la lutte contre le chômage? C'est le thème de la 8e édition des Journées Carrières. La manifestation s'est déroulée à Guitry. Elle n'a pas connu une grande participation des élèves des classes de 3e, 1er et terminale qui sont les premiers concernés. Ce désintérêt a été déploré par le directeur du Centre d'information et d'orientation de Divo qui pilote cette activité. Plus de précisions dans ce reportage signé Abel César Cassin.
De nombreuses personnalités politiques et administratives se sont déplacées au lycée moderne de Guitry qui accueillait cette 8e journée carrière pour marquer leur intérêt à cette activité. Seulement, le directeur du CIO, le Centre d'information et d'orientation de Divo, qui pilote ce genre d'activité, se dit insatisfait. Brou Kouadio Jules.
Il s'agit de présenter des offres de formation aux élèves de 3e, de 1er et de terminale, de susciter des vocations à travers l'information, à travers la tribune des modèles, les exposants, ceux qui viennent de l'extérieur, je veux dire les grandes écoles et universités, sont au nombre de 12. Je voudrais insister sur la sensibilisation, parce que l'activité est faite pour les élèves. Et lorsque les exposants font le déplacement et qu'il y a très peu d'élèves, c'est quelque peu décevant.
Invité pour exposer sa vision de l'emploi, voici les conseils du président du conseil régional du Lodjibois, Joseph Diablé, aux élèves.
Concours, tous ceux qui ne pourront pas aller au-delà du PBC, au-delà du bac, n'attendez pas dans 5 ans. Parce que quand on attend, là, on oublie. Dès que vous finissez, à partir d'octobre, vous commencez à préparer le concours. Sinon, ils n'ont pas l'argent.
Le directeur régional de l'éducation nationale a exhorté pour sa part les élèves à attacher de la dimension aux enseignements de cette journée. Traoré Enza.
Vous devez bien choisir pour ne pas gonfler le nombre des chômeurs parce que vous avez mal choisi.
Fondateur d'un collège privé à Divo, Kwaku Kevin a été présenté aux élèves comme un modèle de réussite. De Guitry, région du Lodjibois, Abel César Cassin, Radio de la Paix.
Après Guitry, on met le cap sur Daloa, l'accès et la qualité des soins de santé. Puis, dans les localités de la région du Haut-Sassandra, était au centre des échanges entre les acteurs de la société civile et des professionnels du secteur. Cette réunion, organisée par le réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme, s'inscrit dans le cadre du projet dénommé Finances publiques. Je participe. C'est un programme soutenu par l'Union européenne et la Fondation allemande Friedrich. Berthe, compte rendu, Jean-Noël Kwame.
Le docteur Koussan Yves Roland, chef du bureau d'Alliance Côte d'Ivoire, a mis l'accent sur les pathologies majeures et les défis sanitaires dans le Haut-Sassandra.
On a la tuberculose, le VIH-Sida, le diabète, le paludisme qui sévit. Le gros défi, c'est l'accessibilité à des services de qualité. Faute de moyens conséquents, de plateaux techniques adaptés, ces services ne sont pas fournis comme il se doit à la population.
Kipré Léocadi, présidente d'une fédération de femmes, et Anno Mathias, président de la Fédération nationale des associations de consommateurs du Haut-Sassandra ont plaidé pour une facilité d'accès aux soins de santé.
J'ai envoyé une malade à l'hôpital, j'ai pas eu de place. Au dernier moment, on lui a donné un lit, mais je vous dis que le courant est coupé dans son bâtiment. Elle n'arrivait pas à bien respirer. À 4h du matin, elle est décédée. Quand un malade vient, on devait déjà prendre les gants pour consulter le malade. On va te faire payer les gants d'abord, sans compter les ordonnances. Et quand tu arrives à l'hôpital, tu n'as pas quelqu'un là-bas. Dans le rang, ils vont trier les malades pour les recevoir. Quand il y a un problème, on ne sait pas à qui se plaindre.
Le CHU devient petit, donc faire un CHU à Daloa est une doléance majeure. Les rues de Daloa ne sont pas assez bitumées et empêchent les populations d'accéder aux centres de santé. Daloa, ici, c'est un véritable calvaire. Un médecin nous a dit que les services d'accouchement et de césarienne sont entièrement gratuits. Or, les femmes disent que ce n'est pas gratuit.
L'absence d'un service de réanimation au CHR de Daloa, la nécessité de renforcer le personnel et l'absence de dispositifs de traitement des déchets médicaux dans les hôpitaux ont fait l'objet de recommandations pour un plaidoyer en vue de faciliter l'accès et améliorer la qualité des soins de santé dans le Haut-Sassandra. Jean-Noël Kwame, Daloa, Radio de la Paix.
Direction le Ghana où la vice-présidente américaine a rencontré hier le président Akufo-Addo à Accra. Kamala Harris a annoncé une nouvelle enveloppe d'aide bilatérale de 100 millions de dollars, soit environ 50 milliards de francs CFA, pour renforcer la sécurité des côtes d'Afrique de l'Ouest. Son périple au Ghana, en Tanzanie et en Zambie, prévu jusqu'au 2 avril, intervient après un sommet États-Unis-Afrique en décembre dernier à Washington. Et pour les observateurs et autres analystes de la scène internationale, cette visite de la vice-présidente américaine, sa première sur le continent africain, est chargée d'enjeux. Là-dessus, voici l'éclairage de Kouadio Guessant. Il est professeur titulaire en histoire des relations internationales à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody.
Cette visite s'inscrit dans la droite ligne de ce que la haute administration américaine a débuté en août dernier. Vous vous souvenez que le secrétaire d'État ou le ministre des Affaires étrangères américain, Anthony Blinken, s'était déjà rendu en Afrique. Et si vous voulez, cette visite de la vice-présidente Kamala vient en quelque sorte parachever ce que le ministre d'État avait commencé. N'oubliez pas que depuis la guerre russo-ukrainienne, l'Afrique est désormais au centre des préoccupations internationales, qu'il s'agisse des problèmes politiques, des problèmes diplomatiques, des problèmes alimentaires ou économiques, etc., avec une rivalité féroce qui est engagée entre les grandes puissances et puis les puissances moyennes. Mais quand on observe, par exemple, surtout les nombreuses ressources minières et énergétiques dont l'Afrique dispose, eh bien, de la place du coup, le continent à un niveau où il est tout à fait normal pour les grandes puissances de chercher à s'accaparer une part du gâteau. Et il faut ajouter que ces grandes puissances sont dans une situation de rivalité.
Kwadio Guesson, professeur titulaire en histoire des relations internationales à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Cocody, et puis au Sénégal, Eladji Malick Ndiaye, porte-parole du parti de l'opposant Ousmane Sonko, a été inculpé hier pour diffusion de fausses nouvelles et placé sous bracelet électronique. C'est ce qu'a annoncé l'un de ses avocats alors que les tensions politiques s'annoncent à nouveau vives cette semaine à un an de la présidentielle. Eladji Malick Ndiaye est mise en cause pour un message posté sur les réseaux sociaux le 16 mars et évoquant les conditions dans lesquelles Ousmane Sonko, candidat déclaré à la présidentielle, avait été conduit ce jour-là sous forte escorte policière au tribunal de Dakar pour répondre des faits de diffamation contre un ministre, nous apprend l'AFP. À présent, l'invité de la rédaction, il s'agit du directeur général de la diaspora au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Dr Gaoussou Karamoko apporte tout l'éclairage nécessaire sur le dossier d'un peu plus d'une centaine d'Ivoiriens actuellement bloqués au Niger et qui attendent d'être rapatriés au pays. Et là-dessus, il répond aux questions du Soro Adams.
Bonjour, monsieur le directeur général Gaoussou Karamoko.
Bonjour, monsieur Soro.
Monsieur le directeur général Gaoussou Karamoko, il y a depuis quelques jours un dossier qui défraie la chronique et qui alimente bien des conversations dans certains cercles. Des Ivoiriens seraient aujourd'hui dans le désert du Niger, incapables de regagner leur pays, la Côte d'Ivoire. De quoi s'agit-il exactement ?
La situation du Niger est une situation qu'on connaît très bien. Hein. C'est vrai qu'il y a des Ivoiriens au Niger, mais ce n'est pas des Ivoiriens perdus dans le désert. Au contraire, c'est des Ivoiriens qui sont dans un camp de transit. Il y en a trois précisément dans cette zone et qui attendent de regagner la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, j'avoue que c'est un dossier qui est antérieur au dossier tunisien. La programmation leur a été faite avant que la crise tunisienne éclate. Et comme il y avait une urgence tunisienne, on a dû parer au pressé. Mais sinon, le retour de 110 personnes, hein, 110 Ivoiriens qui sont au Niger, dans le camp de transit du Niger, qui doivent rentrer en Côte d'Ivoire précisément le 30 mars 2023, dans des conditions assez responsables et assez humaines. L'État a dégagé les moyens nécessaires. Hein, mais comme je le dis, c'est une situation qui est antérieure à la situation tunisienne. Ce n'est pas une crise en tant que telle, même si c'est des migrants irréguliers qui sont descendus pour la plupart de l'Algérie et d'autres pays de la zone. Mais déjà, on avait fait une mission d'inspection, d'enquête pour comprendre un peu le dossier. On sait qu'il y a, en tout cas, après nos analyses, il y a 110 Ivoiriens au centre de transit du Niger qui vont rentrer bientôt en Côte d'Ivoire, précisément le 30 mars 2023.
110 Ivoiriens dans des centres de transit. D'où viennent-ils et pourquoi veulent-ils rentrer en Côte d'Ivoire?
Ils viennent pour la plupart de l'Algérie. Évidemment aussi des autres pays, notamment la Tunisie, mais essentiellement de l'Algérie. Et évidemment, quand ils sont dans des situations assez difficiles, ils ont le réflexe tout de regagner des centres de transit dédiés aux migrants en difficulté, notamment le centre de transit que l'UIM traite et surveille de près. Et donc, c'est un centre qui est reconnu par toute la communauté internationale, qui est connu de tous les migrants. Et le reflet, justement, quand ils sont dans des situations d'irrégularité, donc repoussés dans les frontières des pays, ils ont ce reflet d'aller vers justement ces centres de transit pour bénéficier d'une assistance humanitaire. Et l'OIM, en la matière, a une bonne réputation, les récupère dans ces centres, l'OIM gère ces centres. Ensuite, les États essaient de voir comment les conduire dans leur pays, parfois avec l'appui de l'OIM, mais cette fois-ci, c'est la Côte d'Ivoire elle-même qui prend en charge le retour de ces 110 Ivoiriens qui sont dans le camp de transit du Niger.
Donc, ils ont été refoulés de l'Algérie, de la Libye?
Pour certains, hein, pas tous, mais c'est une situation générale de refoulement. Évidemment, il y a ceux qui volontairement convergent vers ces centres parce que conscients que le chemin ne peut plus aller plus loin que là où ils sont arrivés. Et donc, ils se rejoignent à ceux qui convergent vers le centre. Mais les refoulés également convergent vers ces centres-là avec l'appui justement des organismes internationaux, des ONG et autres.
Je vous remercie, monsieur le directeur général Gaussou Karamoko.
Merci beaucoup, monsieur Soro.
Je rappelle que vous êtes
Gaussou Karamoko, directeur général de la diaspora au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora.
Bonne journée, monsieur le directeur général.
Merci, monsieur Soro, à bientôt.
C'est sur cet entretien que se referme le journal de midi. Avant de nous quitter, le rappel de l'essentiel. À quoi servent les députés ivoiriens? Combien sont-ils à l'Assemblée nationale? Où sont-ils élus et où sont logés leurs services? Quelle est la différence entre les députés et les sénateurs? Autant de préoccupations qui étaient au centre d'une conférence publique animée par Kia Diomandé-Roger. Selon le député de Mancommune 2, le rôle principal du législateur est de voter les lois qui régissent la société. Le 15 novembre prochain, la ville de Boaké sera l'hôte de la Journée nationale de la paix, du souvenir et du pardon, l'occasion de réapprendre à le vivre ensemble, a indiqué le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Bertin Conan Kouadio, est allé donner l'information aux populations de Boaké. Merci de votre attention. Je reviens à 15h sur Radio de la Paix pour le Flash. Mais en attendant, voici la revue de presse de Francis Cassi.
Bonjour à tous. Notre revue de presse de ce mardi commence par la conférence de presse ce lundi du PDCI RDA. Pour le porte-parole de ce parti face à la presse hier, le congrès extraordinaire qu'il va tenir vise les questions d'ordre réglementaire, ajoutant que le départ de certains de ses cadres au RHDP avait pour objectif de décapiter le PDCI et le faire disparaître faute de n'avoir pas pu le fondre dans un parti unifié. Et le président du parti, enfin stratège, a dû prendre des décisions politiques pour freiner et annihiler la transhumance qu'on qualifie de départ au restaurant, déclare Bredoumi Soumaïla, rapporté par le Nouveau Réveil. Mais pour dernier un monde sur le même sujet, à 48 heures du congrès extraordinaire du PDCI-RDA, Bredoumi Soumaïla, avec ses propos et bien d'autres, charge le régime RHDP. Avant que le bélier intrépide n'indique que, au dire de Bredoumi Soumaïla, le congrès extraordinaire est convoqué pour résoudre un problème spécifique ou répondre à une question précise, tout en poursuivant que, après sa tenue, d'autres défis immédiats attendent le PDCI, dont la finalisation de la liste de ses candidats et leur publication pour les élections locales. Dans certains journaux aussi se lit une info en lien avec la situation socio-politique. Situation sociopolitique graduelle en perspective entre le camp présidentiel et Gbagbo.